too.
Corps, amour, sexualité. Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue sur Calibre pour cette 20e émission en direct sur Radio Kaléidoscope
97 FM. Ce soir, on va faire une toute petite présentation parce qu'on a déjà un appel. Donc c'est super. Alors Calibre, c'est une émission de libre antenne sur les questions de sexualité, de corps, de relations, tout ça, plein de choses chouettes sur lesquelles on a envie de discuter avec vous. C'est pour ça que vous nous appelez. Voilà. Et ce soir, au micro, il y a Myriam et Mélanie, et à la technique, il y a Maud, et au téléphone, c'est Christelle. Voilà, on va accueillir la première personne qui nous appelle ce soir.
Alors, peut-être pas. Alors, je vais continuer à présenter l'émission. L'idée, c'est juste de vous rappeler que nous ne sommes pas des expertes et que on considère que nous sommes toutes et tous experts de nos vies et qu'on peut trouver des solutions qui nous conviennent le mieux dans nos problématiques. Voilà. Que dire? Peut-être vous tenez le numéro de téléphone et puis vous en profitez pour dire qu'il n'y a qu'une seule ligne. Donc, si ça sonne occupé, c'est qu'il y a déjà quelqu'un en ligne. Et donc, n'hésitez pas à rappeler. Donc, le numéro de téléphone pour nous joindre en direct ce soir, c'est le 04 76 09 09 09.
Bon, allô?
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 Oui, bonjour.
Bonjour.
Je vous écoute.
Non, c'est nous qui t'écoutons. Peut-être si tu as envie de te présenter ou pas.
Ou juste nous dire pourquoi tu nous appelles ce soir.
Oui, en fait, j'appelle parce que je suis masculin et je suis dans une relation d'amitié et sensuelle avec une femme avec laquelle je m'entends vraiment bien. C'est une personne qui peut avoir des attitudes assez violentes, et à l'inverse, moi je suis quelqu'un de totalement non violent et je me suis jamais battu. Et on discute de ce genre de choses, on discute beaucoup, et j'ai une question en fait, et je voulais peut-être avoir un avis extérieur, parce que quand on est dans une relation où c'est pas vraiment un couple, mais très proche comme ça, elle me dit par exemple si le conflit lui est nécessaire, parce que dans nos rapports notamment sensuels, elle voit pas bien comment elle pourrait en tant que femme essayer de développer une relation égalitaire avec moi, qui suis un homme sans passer par le conflit. Mm-hmm. Elle me dit que c'est pas de la haine, que moi parfois aussi elle a l'impression que je veux éviter le conflit pour éviter une négociation de la réalité et tout ça. Et en fait moi j'avoue que ça me fait souffrir, et ça me, même dans les relations que je peux avoir de toute forme d'amitié, je supporte pas les engueulades et ce genre de choses. Et voilà, donc c'était pour entendre peut-être des sons de cloche différents de ce que voilà.
Moi, j'ai envie de te poser la question, quand tu parles de conflit, de violence, qu'est-ce que tu entends par là, ou enfin qu'est-ce que tu vis avec cette fille concrètement, que toi tu exprimes par ces mots-là en fait, déjà, pour commencer.
Crier fort, vraiment piquer des colères. Après, j'exclus pas que il est possible que par exemple, je dis que je suis non violent, c'est un peu déloyal, parce que je peux avoir des fois des attitudes violentes, mais oui, voilà, c'est essentiellement des mots, faire la tête longtemps, etc. Et puis, vraiment, je sens vraiment une agression.
Ouais.
Et voilà. Après, je me sens peut-être agacé, peut-être que j'ai tort de me sentir agacé, mais si on me crie dessus, que ce soit au travail, au travail, je quitte mon travail. Quand c'est en amitié, il y a des personnes que j'ai cessé de voir parce que je peux pas imaginer d'avoir une relation d'amitié avec une engueulade. Et par contre, à l'inverse, j'ai des relations d'amitié où on peut remettre les choses je peux entendre beaucoup de choses. J'essaie de tout entendre. Je trouve que c'est ça qui est intéressant dans la vie. Mais c'est une question un peu de manière, et je me sens, moi, j'avoue que ça me détruit, et à terme, j'ai peur que ça détruise l'affection que j'ai. Et donc, j'ai vraiment peur, quoi.
Et donc, toi, tu dis que t'as essayé d'en parler avec elle, et qu'elle, elle justifie ses colères, ses cris, tout ça, par le fait que pour elle, c'est une manière d'être à égalité avec toi.
Bah, qu'en fait, oui, d'un côté, elle dit que vu qu'on a une relation de genre, et je le comprends, hein, je le comprends bien, il faut qu'il y ait une confrontation, et il faut qu'il elle j'ai l'impression qu'il y a une sorte de manque de distinguo entre confrontation, retour à la réalité, avancée commune et conflit. C'est-à-dire que moi, dans un conflit, si je prends le dictionnaire, même si c'est une horreur, le dictionnaire, je comprends qu'il y a une sorte de guerre et que le but c'est d'anéantir l'autre. Ah, moi je veux pas l'anéantir et je pense pas qu'elle veuille m'anéantir. Donc du coup il y a un problème du but de l'agressivité, quoi.
En fait il y a un mot que j'ai pas compris. À un moment donné t'as parlé t'as dit on a une relation de genre ou de genre.
De genre. Moi je suis née masculin, elle est née féminine. Et puis on est construit autour de ça.
En fait, t'as un peu l'impression. Alors peut-être je vais aller au-delà de ce que tu dis toi, et du coup, si jamais c'est pas ça, n'hésite vraiment pas à me le dire. Mais j'ai l'impression que que pour toi, elle est en train de te faire porter sur les épaules le fait que tu représentes la gente masculine et que du coup, t'es dans une position de domination et que du coup, il faut qu'elle te rentre dedans pour faire évoluer ça. C'est un peu ça que tu ressens, c'est ça ?
Non, parce que j'accepte pleinement mon rôle d'oppresseur, et à l'inverse, il y a des situations où elle a pu me le révéler dans des situations intimes, par exemple, où c'est un peu le principe du non c'est non, quoi. Et même si j'ai pas forcément réagi au quart de tour, etc., j'ai fini par comprendre très bien, et ça s'est pas fait dans le conflit. Ouais. Moi, ce que j'essaie de dire, et ce qui me pose un problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une confusion entre une colère qui serait ressentie et qui serait justement pas exprimée, et qui viendrait peut-être d'ailleurs d'une construction de genre à genre, etc. Je suis super embêté, j'arrive pas quoi à savoir quoi penser, et surtout j'ai peur que ça atteigne nos sentiments mutuels.
Bah en fait, moi, pour le coup, je suis née féminine, et du coup, je connais pas ta position et tout ça, mais moi, c'est vrai que par exemple, il y a des fois, vis-à-vis de garçons, je peux être en colère sur des choses précises, par exemple. Et alors là, effectivement, ma colère, elle a pas forcément de forme, de limite, mais parce que en fait, c'est justement sur des comportements sexistes qui me rappellent le monde dans lequel on vit, etc., etc. Et du coup, moi là, à ce moment-là, je me trouve légitime à être en colère je crie pas forcément, mais parce que c'est pas forcément mon mode ma façon de fonctionner, tu vois. Mais du coup, ça dépend aussi sur quoi vous êtes en conflit, sur quoi vous vous confrontez. Enfin, tu vois ce que je veux dire?
Est-ce que tu as des exemples à nous donner un peu précis, donc sans dévoiler votre vie spécialement, hein, mais sur quoi cette colère ou ce conflit, il part de quoi? Quels sont les enjeux? Qu'est-ce qui se passe?
Un exemple, j'ai nettoyé, fait la vaisselle, et en faisant la vaisselle, j'ai nettoyé une cafetière italienne. Et je me suis fait exploser parce que les cafetières italiennes ne se nettoieraient pas.
Et tu penses que tu t'es fait exposer parce que vous êtes dans cette relation intime ou c'est que finalement vous auriez pu être, je sais pas moi, des colocs ou des juste des amis d'amis qui se retrouvent à un même endroit et que ça serait passé pareil?
J'ai l'impression que ça serait passé beaucoup plus doucement si j'avais été un simple colocataire.
Mmh. Et si tu avais été une fille? Parce qu'elle a un tempérament...
Peut-être aussi.
Mais après moi, alors je sais pas si ça va faire avancer le schmilblick en ce qui te concerne, mais moi je me retrouve aussi dans ce et dans ce que tu disais Mélanie tout à l'heure, hein, de bah dans certaines relations, ouais, je peux être violente alors avec ma propre violence et qui est bon ce qui est escalé, mais effectivement en général c'est parce qu'il y a des comportements pas forcément hyper explicites, mais qui me font me sentir rabaissée et que du coup j'utilise ce moyen-là. Et après aussi, de manière générale, plus je suis proche des gens, moins j'adoucis. Donc moins, plus je vais rentrer dedans. Je sais pas. Alors c'est peut-être un fonctionnement qui est pas très sain. J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une réalité que moi, au plus je vais être proche des gens, et ben au plus je vais rentrer dans l'art sur tout bout et n'importe quoi. Alors c'est bien de le travailler. Hein, je dis pas que c'est ça qu'il faut faire dans la vie, mais peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre. Là aussi, quoi, que la proximité avec la proximité, des fois on se permet d'autres choses, on est moins dans le consensus, on est moins dans les apparences, plus dans ce qui sort du bide à un moment, quoi.
Oui, mais ça je le partage aussi. Mes plus vieux ou vieilles amies, c'est les personnes qui me remettent au pas et qui me disent des choses parfois extrêmement dures, mais c'est pas pour autant qu'il y a conflit. Et c'est pas pour autant qu'il y a autant d'agressivité et de haine. Donc je pense qu'il y a une nuance entre... Et c'est ça qui m'embarrasse. Et c'est ça que je voulais parler ce soir, ou je voulais entendre. C'est qu'il y a... Je comprends super bien que... Et je pense que c'est même un devoir de l'amitié de s'épauler et d'aller dans les détails de plus en plus nets et de plus en plus pointus. Je crois qu'il y a un risque de... Des fois, j'ai presque l'impression que c'est vrai, je suis un homme, et c'est vrai que je suis construit comme un homme, et c'est vrai que j'ai plein de choses à enlever, et je suis d'accord sur tout, mais également, je pense qu'il y a quelque chose à construire ensemble, qui est mixte, et que là, il y a une confusion, qu'il y a un amalgame qui se fait entre conflit et profondeur, entre la forme et le fond.
D'accord. Et est-ce que, parce que toi, tu dis que elle, comment elle explique les, enfin, je vais me reprendre là parce que j'ai une question dans ma tête. Toi, en tout cas, ce que je comprends, c'est que ça te va pas cette façon que vous avez de communiquer en fait. Que toi, comme tu disais au début, t'as pas envie de qu'elle te crie dessus, t'as pas envie qu'elle soit en colère ou qu'elle te fasse la tête pendant des jours, et que s'il y a des choses à discuter sur vos comportements respectifs, c'est pas forcément sur ce mode-là que t'as envie de le faire. C'est ça que j'ai bien compris?
Ouais, c'est un peu vrai que c'est dictatorial d'imposer une forme de relation, je comprends.
Ah non, moi j'ai pas du tout dit ça. Hein. En tout cas, moi ce que je constate, c'est que toi, t'avais plutôt envie de ça. Après, c'est pas que j'ai pas l'impression que t'avais envie de l'imposer.
En t'entendant parler, c'est ce que je comprends, ouais. Parce que je réfléchis, hein, et c'est positif.
Ouais.
C'est vrai que de quel droit je peux lui interdire sa colère, mais après, comment est-ce que je fais moi par rapport à quelque chose que véritablement je supporte pas?
Ben, moi, je crois que tu peux pas lui dire de pas être en colère sur face à l'injustice de la domination masculine, tu vois.
Oui.
Mais je pense que tu es en droit d'exiger un traitement convenable de la même manière. Enfin, je veux dire, je crois pas que c'est justifiable. Je sais pas comment dire, mais moi, je crois que t'as le droit de choisir quel type de rapport t'as envie d'avoir avec elle, quoi. Et la question que je voulais du coup poser, c'est que elle, est-ce que elle a pour elle, du coup, elle, cette colère, elle est nécessaire. Elle exprime cette violence qu'elle, elle subit en tant que femme, tatati tatata, et elle a pas envie d'en changer avec toi. Ou est-ce qu'elle a exprimé un truc de bah, j'entends ce que tu dis, je vais essayer de moins crier, ou je crierai que sur des trucs qui sont pour moi vraiment significatifs de ton rôle de garçon.
On n'est peut-être pas allé dans ce type de discussion. Puis même, il me fait quand même réfléchir parce que j'étais plus d'accord avec ce que tu as dit au début sur accepter ou pas accepter ou décider ensemble d'un mode de relation, d'un mode de traitement. La forme, ça dépasse les thèmes. C'est-à-dire que si je suis alors je sais, si par exemple j'étais vraiment nullissime pour lire une carte routière, pour prendre un exemple typique qu'on attribue bêtement aux femmes, d'accord. Du coup, et qu'elle me criait sur ce point-là. Dessus et que moi j'en souffrais, ce que tu viens de dire ça fonctionne pas parce que je vois pas pourquoi j'accepterais sur une question de genre un certain ton et une certaine truc. C'est ma personne qui est en face et donc je pense que sur tous les sujets on peut discuter, on peut aller très loin, quitte à même moi je peux avoir mal, c'est-à-dire qu'on peut me dire t'es ceci, t'es cela, t'as fait ci, est-ce que tu te rends compte que t'as fait ça, je veux l'entendre, je veux qu'on me le dise, mais c'était vraiment une question de manière, de durée de la colère et j'avais l'impression qu'effectivement en tant que mâle je servais un peu de paratonnerre à une foudre. Mais autant j'assume ma domination et celle qu'effectivement je prends, autant ça me paraît difficile d'être le paratonnerre de tous les mâles du monde.
Ouais. Moi il y aurait deux choses aussi qui m'interrogent quand tu t'emploies des mots vachement fort, hein, pour décrire ça, conflit, violence, agression. Et est-ce que tu lui as demandé si elle avait cette intention-là? C'est-à-dire qu'il y a des gens aussi qui ont un niveau de décibel et qui ont des manières de dire les choses un peu rentrent dedans, mais qui sont pas forcément dans l'intention de t'agresser ou te dévaloriser. Et ça pourrait être intéressant de voir, elle, comment ces interactions-là, elle les ressent après coup. Hein, c'est pas la peine d'essayer... pendant l'interaction, parce que tu risques d'avoir des réponses un peu tranchées, pas forcément très fines. Enfin, des fois, tu sais, quand on est pris, c'est pas là qu'on a le plus de recul.
Et moi, j'ai envie de rajouter, et pas forcément pour minimiser toi ce que tu ressens. Hein. C'est plus pour avoir une base de discussion.
Voilà. Et une fois que vous avez réussi à mettre des mots chacun sur ce genre d'interaction-là, et que toi t'analyses que, ou tu es, en tout cas tu exprimes que c'est quelque chose qui ne te convient pas et que tu ne veux pas continuer à supporter, bah, j'ai l'impression qu'il y a deux options. Soit elle a pas envie de changer ça, c'est important pour elle, ou elle se sent pas, ou ça serait trop compliqué, ça remettrait trop de choses en cause. Et dans ce cas, si c'est pas supportable pour toi, ben, il y a des chances que votre interaction, elle soit pas trop possible effectivement de continuer comme ça. Soit elle a envie de changer certains trucs, est-ce que toi ça te convient ces certains trucs ou c'est tout qu'il faut changer, et dans ce cas-là ben c'est une progression à avoir à deux sur bah ok, quand ça se représente, comment on fait, est-ce que je fais stop, est-ce qu'on a un signe, est-ce qu'on en reparle tout de suite plus tard, comment ça se passe quoi.
Ouais, après j'ai pas envie de la faire changer, que soit moi l'origine de son changement quoi.
Oui, mais tu peux être à l'origine de l'interrogation, en tout cas sur ces interactions, parce que t'en fais partie, quoi. Donc ça, c'est important que t'aies ton mot à dire et que tu exprimes aussi des choses qui ne te sont pas supportables. Après, oui, tu vas pas l'obliger à changer si elle a pas envie de changer ça, si elle se trouve légitime dans cette colère, dans ces attaques. Après, du coup, ça sera à toi de voir, si pour toi c'est trop et du coup t'as pas envie de continuer, quoi.
Ouais, mais il y a un dilemme parce que il y a de l'attachement ou de l'affection et du coup, d'une part, je perds des morceaux à chaque colère. Mmh. Et comme tout à l'heure, je veux un peu revenir. Je trouve pas que c'est des termes violents parce qu'il décrit des termes, je sais plus quoi. Là,
il y a eu fort, je sais plus ce que je
veux dire. Fort, ouais. Parce que c'est des, ils sont descriptifs. Et moi, je pense que il faut décrire les choses pour ce qu'elles sont. Mmh. Et dans d'autres relations et dans le passé, j'ai aussi eu des attitudes colériques et violentes. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que je supporte mal aujourd'hui.
Ouais. Ouais. Voilà.
C'est le fait d'en parler avec des personnes neutres, ça aide beaucoup.
Ouais, mais, bah, c'est chouette déjà. Ouais, mais ouais, c'est compliqué, hein, la question de et comment on se parle et qu'est-ce qui nous fait violence, que ce soit la cafetière mal lavée ou trop lavée, ou enfin voilà, c'est vrai qu'on a aussi des niveaux de trucs qui nous hérissent qui sont pas les mêmes, mais. Mais après voilà, ce qui est il y a deux choses qui sont intéressantes, c'est et de savoir effectivement qu'est-ce que il fait qu'il y a ce type de réaction. Genre est-ce que tu peux essayer de trouver une similitude dans les situations ou pas du tout. Et la deuxième qui est plus globale sur qu'est-ce qui fait que elle s'exprime en ces termes-là et que toi tu le ressens violemment. Enfin voilà, c'est vraiment deux choses.
Mais en tout cas, toi, tu dis que tu exprimes un truc de pas être satisfait de la situation, et en même temps, moi, je comprends que, enfin, la façon dont tu l'exprimes, que t'as pas envie de la changer. Moi, je crois que j'ai envie de réaffirmer le fait que quand on est en interaction avec une personne, en fait, de fait, on la change. Enfin, je veux dire, on est là pour. Enfin, moi, je crois que c'est aussi pour ça qu'on a des relations avec les gens, et que ça, qu'elles soient amicales, amoureuses ou je sais pas, c'est ce qu'on nous renvoie. Il y a des façon plus ou moins douce ou violente de se le renvoyer, mais enfin on n'est pas non plus en changement permanent, mais enfin
là aussi, il y a une nuance entre changer, et c'est évident que dès que dans le monde des êtres vivants et dans le monde des interactions, dès qu'on va mettre une petite goutte d'eau de plus dans le bocal, tout va être changé. Et ça c'est inexorable et c'est la beauté de la vie. Mais il y a une différence entre changer tout court, comme tu le décris, et avoir l'intention, je dirais, colonialiste, entre guillemets, de changer, ou de faire changer quelqu'un. Mmh, mmh. Et ce que je refuse, c'est de coloniser son changement.
Ouais. Après, si t'as pas envie d'être à l'origine d'un changement, mais qu'à la fois ça t'est pas supportable le statu quo, à un moment il y a quand même un problème, quoi. C'est-à-dire, tu vas pas pouvoir supporter ça longtemps. Donc voilà. C'est.
Alors j'appelle les calibres.
Mais on n'est pas la solution miracle. Hein. Ouais. Ah, c'est encore ce truc de discuter, je crois. Mais ce qui est compliqué dans ce type d'interaction, enfin moi j'ai l'impression que il faut trouver un cadre sympa, sans tension, où t'as tout bien lavé ou pas lavé la cafetière comme il faut pour pouvoir parler tranquillement de ça. Mais parce que vous en avez parlé déjà.
Ouais.
Ouais.
Mais on perd des morceaux à chaque fois, quoi. On perd des bouts, quoi. Moi, au sens où c'est comme si, quand je prenais le terme conflit, c'est une image, mais c'est un peu l'image qu'on a dans les, on voit les adolescents en train de jouer sur les jeux de violon là. Et en fait, chaque fois qu'ils tirent sur quelqu'un, il y a des morceaux qui s'en vont. Et j'ai l'impression que il y a des, ça revient à ça. Et du coup, il y a des, plutôt que de construire, en fait, ou de déconstruire, ce qui pourrait être intéressant aussi, ce qui se passe, c'est qu'on casse.
Ouais, c'est-à-dire que quand toi, on va dire, t'essayes d'aborder cette question-là, la discussion se passe sur ce mode d'agression, de violence, de cri, de colère.
Ouais, et puis à chaque fois qu'il y a une colère, on perd des billes, on perd des bouts, quoi.
Ouais.
Des morceaux. C'est comme des petits morceaux de chair qui s'en vont, quoi.
Mais du coup, ce qui serait intéressant, c'est de trouver un cadre où vous deux, dans une interaction où ça va, quoi, où il n'y a pas de, il y a pas cette violence ou cette colère qui est là, et d'en parler calmement, quoi.
Ouais.
Parce que c'est sûr que sur le coup, c'est compliqué, quoi.
Mmh. Ouais.
Mais bon, voilà, faut trouver comment amener ça. Quand ça va bien, avec la peur de re-amener quelque chose qui est plus compliqué. Mais bon, si, comme tu dis, t'es en train de perdre des bouts à chaque fois, je crois que t'as pas. Faut essayer, quoi.
Puis, Moi, je reviens encore. J'ai une espèce d'idée qui me trotte dans la tête depuis tout à l'heure, mais c'est en fait, je crois que moi, j'ai envie encore de te dire que t'es légitime à refuser le mode de communication violent s'il te va pas. Et c'est pas pour autant que tu lui demandes de changer. Ça, en fait, enfin, tu peux si, en tout cas, si elle entend pas que ça te va pas et qu'elle a pas envie de changer, tu peux aussi juste partir. Enfin, sous différentes formes en fait, ne pas accepter ce truc-là en lui disant, je te l'ai déjà dit, je ne parle pas avec toi quand tu communiques de cette manière-là. Enfin, parce qu'effectivement, sinon toi, tu te détruis aussi à subir ce truc-là si c'est violent pour toi, quoi.
Oui, je comprends, j'ai essayé, mais ça pose aussi des problèmes parce que dans ce genre de situation, si l'un ou l'autre part, ça se fait pas tout seul. Il faut ouvrir une porte, sortir d'une maison, aller dans une rue, quelqu'un en colère, il va le voir comme un abandon, comme c'est pas si simple, je trouve. C'est pas si simple. Et effectivement, s'il y avait juste moyen de m'enfermer dans le placard, mais franchement, il y a des fois, je préférerais me faire taper dessus par elle.
Et c'est pour ça que ça me paraît crucial de trouver le moment d'en parler et au moins vous mettre d'accord sur qu'est-ce qui se passe quand cette situation là se reproduit où toi tu peux pas, à la fois t'as pas envie de te barrer parce que tu sais que ça va lui faire du mal à elle, mais enfin voilà, un truc de on se met d'accord sur des micro-règles du jeu là pour pouvoir essayer d'aller un peu plus loin dans l'interaction, quoi. Et après je pense que enfin, je sais pas, hein, mais moi j'ai l'impression que même si des fois j'ai des colères qui semblent pas justifiées, elles s'appuient sur quelque chose, quoi. Soit un mal-être qui est pas forcément lié à la situation en question, hein, mais qui ressort parce qu'il y a d'autres choses. Et dans ce cas, ben ça peut faire du bien que la personne, au lieu de te dire ah mais t'es pourquoi tu me colles dessus pour la cafetière, c'est mais attends, c'est bizarre là, ça a l'air un peu fort, il y a pas autre chose, enfin voilà, essayer de voir. Soit c'est avec des gens avec qui j'ai quand même des choses à discuter, quoi.
Ouais, c'est vrai que certainement des fois on a des réactions qui sont tout un passé, qui sont toute une éducation et qui se focalisent sur un geste ou sur on interprète le monde en permanence, quoi. Mm. Mais le problème c'est qu'on est tellement justement dans cette interprétation et en dehors du réel que le petit signal genre je le fais avec d'autres personnes, par exemple là où je travaille. On a avec une personne qui monte bien à la molette, moi j'ai un petit signal et puis on se voit d'un bureau à l'autre, alors je lui fais un petit coucou quand elle crie et ça marche super bien à chaque fois. On rigole après et c'est vrai qu'on arrive, mais on n'a pas, quand c'est vraiment dans une relation de grande proximité, etc., ça devient encore plus dur.
Ah bah il y a plus d'enjeux, hein, c'est plus compliqué, ouais.
Ouais.
On a plus à perdre, quoi, j'ai envie de dire.
Ouais.
À la fois, si c'est une situation, je redis, hein, qui te convient pas, la perte, elle va arriver. Hein. Enfin.
Ouais.
Quelque part, ouais. C'est où tu laisses petit à petit tes morceaux de chair, comme tu disais tout à l'heure, se déliter, et puis elle aussi par la même occasion, je pense.
Oui.
Soit vous réussissez à mettre en branle quelque chose, quoi.
D'accord.
Mais que ce soit pas forcément par la discussion, si c'est compliqué, hein, ça peut être aussi, je sais pas moi, une lettre avec des choses que tu ressens, des questionnements que t'as, j'en sais rien. Il y a plein de moyens d'essayer de démarrer une discussion là-dessus, quoi.
Ouais, c'est vrai. Il faut qu'on progresse.
Parce que des fois, le frontal, c'est pas la meilleure solution immédiate. En tout cas, c'est pas la première étape la plus évidente.
Mais en fait, je pense aussi que comme j'ai été moi-même quelqu'un plutôt impulsif, j'ai mis longtemps à faire un premier pas qui consiste à réussir à, entre guillemets, à prendre sur moi. Mm-hmm. Et dans un sens, j'en suis un peu fier parce que justement, j'évite d'être moi l'agresseur. Mais du coup, c'est un peu le truc classique de la personne qui passe son temps à faire quelque chose et puis qui est un petit peu pas trop catholique, et le jour où elle fait bien, c'est ce jour-là qu'elle s'est chopée. Il y a toujours une sorte de fatalité là-dedans, et ben moi j'ai un peu le sentiment des fois, et je pense que c'est personnel, que ben comme je suis un peu comme je fais un effort sur une éducation que j'ai eue de ne pas être colérique, du coup quand je me fais agresser sur ce terrain-là, ça va être peut-être plus dur, je sais pas.
Peut-être que tu peux prendre le temps de réfléchir à ton côté, de comment cette transformation là s'est opérée chez toi, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment tu as eu envie de changer ça. Alors je dis pas que les situations sont comparables, hein, ne serait-ce que parce que vous êtes effectivement dans des genres différents, avec des positions dans une société différente. Mais ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qui a appuyé chez toi pour que tu aies cette envie de changer, comment ça s'est passé, est-ce que c'est des rencontres, est-ce que c'est des lectures, et puis voir si ça peut être communiqué, ça aussi, quoi.
Ouais, c'est ce que je vais essayer de faire.
Ouais.
Tu m'as faut parler.
Ouais, bah oui, je crois qu'il n'y a pas le choix.
Bon, est-ce que tu avais d'autres envie de dire d'autres choses de...
Non, je crois que c'est super. Là, j'ai déjà beaucoup de choses à réfléchir.
Ouais.
Donc, merci.
Ben, merci à toi de ton appel. Et puis, bon courage. J'espère que vous allez réussir à discuter de tout ça.
Ouais, ce serait bien.
Ouais. Mm-hmm. À bientôt. Et puis, on te repasse le standard. Salut.
Merci.
Voilà. Ouf, c'était difficile hein, comme appel. Hein. C'est toujours les situations tendues où tu sais pas trop comment aussi l'autre personne elle ressent les choses. C'est compliqué, je trouve, à chaque fois de trouver des voies plus simples, enfin moins difficiles que d'autres d'avancer. Mais bon.
Bah, c'est vrai que c'est des fois c'est plus facile de parler de comment ça marche un mode de contraception que de comment ça marche les relations humaines, ça c'est sûr. Mais bon, du coup, on va peut-être se faire une petite pause musicale. Alors, on va écouter Rona Hartner et DJ Click. Alors, c'est l'égérie de Tony Gatliff. Elle est souvent dans ses films. Et le morceau s'appelle Off, Off, Off. Quand je bois un peu de vin, car comme ça si je vivrais.
retour sur l'émission Calibre, la libre antenne pour parler de nos corps, nos amours, nos sexualités. Et vous pouvez toujours nous appeler au 04 76 09 09 09. Je lance notamment un petit appel aux personnes qui nous envoient des mails. C'est super vos témoignages. On aime beaucoup. Si vous avez envie de nous appeler à l'antenne pour les raconter, c'est vraiment le bienvenu aussi. Je pense notamment à un fidèle auditeur qui nous a écrit pour raconter son parcours sur la vasectomie puisqu'on avait fait une émission là-dessus il y a quelque temps, voilà. Ou alors une Roxane anonyme qui nous a envoyé un mail dans la semaine qui nous a beaucoup intéressé. Donc on a envie d'en parler ce soir, mais si jamais tu es à l'écoute et que tu as envie d'appeler, vraiment fais-le, ça sera toujours plus sympa qu'on discute ensemble. En attendant, et ben comme d'habitude, on a été un petit peu chercher dans les forums sur internet, et là notamment les forums pour adolescents sur la sexualité. Donc il y a des, on a sélectionné quelques questions, on va en voir une maintenant sur laquelle on va essayer de répondre un petit peu.
Donc c'est moi qui lis. Je m'appelle Lewis, j'ai 14 ans. Ça fait un an que je suis avec ma copine qui elle n'est plus vierge depuis dimanche dernier. Petit problème, ce dimanche, je faisais une petite après-midi alcool. On était un peu bourrés et tout, et on a fait l'amour. Mais, il y a toujours un mais, on l'a fait sans capote, et elle avait ses règles. Elle a pris la pilule du lendemain, 69 heures plus tard. Très limite. Elle a vomi le mardi matin. J'aimerais savoir si c'est possible qu'elle soit enceinte.
Bon, bah plein de choses dans ce mail. Peut-être avant, on va un petit peu expliquer effectivement la pilule de lendemain, comment ça marche, comment on la trouve, tout ça. Avant, moi, il y avait deux choses qui me paraissaient importantes de relever dans ce message. D'abord, la question de l'alcool. C'est vrai que beaucoup de personnes, ou à plusieurs moments, ça peut différer d'une personne à l'autre, l'alcool est un vecteur pour, on va dire, se décoincer. Et du coup, c'est plus facile d'avoir des rapports sexuel quand on est un peu bourré. Bon, ça pose quand même deux questions, qui est celle du consentement, c'est-à-dire que quand on est bourré, eh ben on a plus de mal à savoir ce qu'on veut, ou surtout ce qu'on veut pas, et à pouvoir exprimer les choses qu'on veut pas. Donc surtout chez des personnes jeunes à 14 ans, moi ça me paraît c'est pour une première expérience, ça me paraît compliqué en fait de faire cette première expérience bourrée. Alors ça veut pas dire qu'il faut absolument pas boire d'alcool quand on veut faire du sexe et tout, mais voilà, ça m'interroge sur le lien entre être bourré et savoir ce dont on a envie ou pas. Et puis l'alcool aussi, en général, ça fait qu'on a plus de mal à se protéger, soit qu'on oublie, soit qu'on galère pour mettre la capote comme il faut. Voilà, donc c'est vrai que l'alcool, c'est quand même un facteur qui fait que des relations sexuelles peuvent être plus à risque dans plein de domaines, hein, que ce soit les infections, la possibilité de tomber enceinte ou d'avoir des rapports qu'on ne désire pas. Voilà. Il y avait une deuxième chose dans son mail, une petite chose qui dit « ma copine, elle avait ses règles ». À ce moment-là, alors j'en profite pour rappeler deux choses par rapport aux règles. La première, c'est que quand on a nos règles, c'est un fluide corporel, hein, c'est du sang, et le sang, c'est un des vecteurs de transmission les plus forts d'infections sexuellement transmissibles. Donc, quand on a ces règles, s'il y a une infection, il y a plus de chances de la transmettre. Et puis l'autre chose qui est un peu une idée reçue que j'avais envie de dire, c'est que quand on a ses règles, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tomber enceinte, parce qu'on entend ça souvent. Donc non, il faut aussi se protéger d'une grossesse non désirée. Quand on a ses règles, on peut tomber enceinte à ce moment-là.
Parce qu'on peut ovuler à n'importe quel moment du cycle, même si la plupart du temps, on ovule 14 jours avant ses règles. Voilà, mais du coup, en vrai, on peut ovuler pour plein d'autres raisons, et puis on peut ovuler deux fois dans un mois, enfin, donc voilà. Mais du coup, on va profiter de ce petit message de forum pour refaire un petit point sur la pilule du lendemain, comment ça marche, c'est quoi les idées reçues qu'on a là-dessus, et tout ça, quoi. Alors déjà, bon, bah, ça se présente sous la forme d'un petit comprimé qu'on prend en une seule fois.
Et c'est quoi son action de se comprimer, c'est de bloquer l'ovulation ou ça la retarde et du coup ça fait que les spermatozoïdes ils rencontrent pas l'ovule et donc ça empêche la grossesse. Donc en fait il faut prendre le comprimé le plus tôt possible après le rapport à risque car son efficacité elle diminue avec le temps. Donc je vais pas vous dire exactement combien ça diminue, mais en gros la pilule du lendemain, faut la prendre 72 heures au maximum après le rapport. Donc là dans le message du forum, c'était 69 heures. En effet, comme il le dit si bien, c'est limite.
C'est quand même les pourcentages, il me semble intéressant. Bon, avec tout ce que c'est des pourcentages, où c'est toujours compliqué à calculer, mais en gros, ce qui est marqué dans les textes officiels par rapport à cette pilule, c'est qu'il y a 95% d'efficacité en cas d'utilisation dans les 24 heures et que le pourcentage d'efficacité tombe à 58% quand elle est utilisée entre 49 heures et 72 heures plus tard. Donc il y a quand même un fort différentiel, quoi. Donc vraiment essayer de la prendre le plus tôt possible.
Bah d'accord.
Non, parce que possible. Je me rappelle plus des pourcentages, ils sont quand même bien.
C'est vrai. Bon, en tout cas, elle est généralement bien tolérée. Il n'y a pas vraiment de d'effets secondaires. A priori, il y a quelquefois un peu des nausées. Mais en tout cas, si on vomit 2 heures après la prise, eh ben en fait, il faut reprendre un comprimé puisque le comprimé, il n'a pas eu le temps d'agir, quoi.
Tout à fait. Peut-être on peut passer aux idées reçues avant d'expliquer comment on se la procure. On entend souvent, et notamment par des pharmaciennes et des pharmaciens, dire que la pilule le lendemain c'est dangereux, faut pas en prendre beaucoup. Voilà, bon c'est pas vrai, on peut en prendre plusieurs. Il y a des pharmaciennes et des pharmaciens qui disent que c'est une par mois ou une par an même. J'ai déjà entendu maximum. Bon c'est faux, hein. C'est on la prend quand on a besoin de la prendre.
Et sinon, ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est que ça ne concerne que le rapport sexuel qu'on vient d'avoir. C'est-à-dire que si on fait l'amour après la prise du comprimé, ça va pas marcher, quoi.
Ah oui, parce que un truc qu'on n'a pas dit sur comment ça marche, c'est-à-dire c'est pas quand on prend la pilule du lendemain qu'on va avoir ses règles immédiatement. C'est-à-dire en fait, ce qui va se passer, c'est que les règles vont arriver au moment qui était prévu, donc à la date présumée ou à peu près des règles dans le cycle classique, quoi. Ça ne va pas déclencher des règles. Et donc c'est pour ça qu'il faut attendre la date de ces règles présumées pour être sûr que ça marche. Et s'il y a un retard de 5 jours à peu près, c'est quand même conseillé de faire un test de grossesse pour vérifier que la pilule a bien marché, quoi, qu'on n'est pas enceinte.
Voilà. Et alors, où est-ce qu'on se la procure? Elle peut être vendue à toutes les femmes dans toutes les pharmacies sans prescription médicale. Pour qu'elle soit remboursée, il faut qu'elle soit prescrite. Donc, il faut être passé d'abord par un médecin ou par un planning, par un centre de planification familiale. Elle coûte entre 4 et 9 euros. Ça dépend un peu des pharmacies. Et elle est gratuite pour toutes les mineures. Oui, elle est vendue aux hommes aussi, s'ils la demandent. Oui, c'est vrai. Je pense que... Oui.
C'était un petit message de la technique.
Pardon, j'ai pas mis en contexte. Et sinon, bon, alors j'essaye de me rassembler, là, mon esprit. Elle est gratuite pour toutes les mineures. Les mineures peuvent aller en chercher dans leur établissement scolaire auprès de leur infirmière. Dans les pharmacies, il y a juste besoin de dire qu'on est mineur et ça, voilà. Ou dans les centres de planif. Voilà. Et pour les personnes qui sont pas assurées aussi à la sécurité sociale, puisque ça existe des fois, elle est aussi gratuite. Voilà.
Ok. Il y a une nouvelle pilule du lendemain qui est sortie, du surlendemain même, qui s'appelle Elawone. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Alors, c'est une nouvelle contraception d'urgence, mais qu'on peut prendre plus tard. C'est-à-dire, on peut la prendre dans les 5 jours. Après, alors, moi, je ne connais pas, je ne vais pas essayer, mais a priori, donc dans les 5 jours, elle marche. Bon, pour l'instant, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle n'est pas remboursée, qu'elle ne se vend que sur ordonnance et qu'elle n'est pas distribuée gratuitement et qu'elle coûte plus cher, je crois, que la pilule classique. Oui, puisque 30 euros, c'est quand même beaucoup plus cher que 4 à 9 euros. Voilà, mais l'avantage, c'est qu'on peut la prendre dans les 5 jours et non pas dans les 72 heures qui font, je crois, 3 jours.
Alors, pour finir sur cette question, en fait, moi, j'ai envie de rappeler que la pilule du lendemain, ça protège pas des IST et que le garçon qui écrit son message a l'air de se préoccuper de la question de la grossesse potentielle de sa copine. Mais en l'occurrence, il faut aussi qu'il se pose la question des risques de transmission de maladies sexuellement transmissibles. Voilà, on peut s'écouter une petite chanson
tout à fait.
Qui n'a rien à voir avec ni les IST ni la pilule du lendemain, mais qui a à voir avec l'amour. Je vais vous en dire quelques mots. C'est sorti c'est un groupe local qui s'appelle Faux Départ. C'est du slam sur du piano et c'est local, je l'ai dit. Et voilà, c'est une chanson sur l'amour.
Les élections, deux domaines où cohabitent haine et passion, deux domaines où s'accumulent les désillusions, deux domaines où l'on peut vite être attiré par l'abstention. Non, parce qu'au début on est plutôt tenté par le vote de conviction, celui qui commence par un coup de foot plein de frissons, qui ne fonctionne qu'avec un fort taux de participation, une pincée d'aveuglement et une bonne dose de renonciation. Alors on est souvent déçu et on se tourne vers le vote utile et réfléchi. Celui qui te permettra d'avoir une vie moins pire que pourrie, où tu devras choisir entre peste, choléra et pandémie. Car la difficulté ici consiste à trouver un bon parti. Reste alors le plus passionnant, le vote contestataire, où attirant ses répulsions s'enchaînent en rythme d'enfer, qui impose des vols au-dessus de nid de cocu délétère, et qui finit généralement par des divorces devant France Inter. Et puis il y a le vote nul, qui correspond à un mariage blanc, où tout tourne autour d'un papier avec des gribouillages ridicules. Et puis il y a le vote blanc qui correspond à un mariage nul. Il ne sert vraiment à rien si ce n'est à faire perdre du temps. En tout cas, partout, tout le temps, il y a la pression du vote. Car l'amour est une conquête, des gens se sont battus pour avoir le droit de dot. Et mieux vaut choisir un requin plutôt que d'aller à la pêche à la lotte. Si tout le monde restait chez soi, quid des marchands de bagues en toc? Avez-vous remarqué les similitudes entre un meeting et les forums de mythique? Que devant sa compagne, comme en campagne, un élu balance des avances pathétiques. Qu'en être cupide et l'alors des pourcentages, et souvent Cupidon comme personnage, afin de faire bander l'arc du triomphe et de maîtriser les flèches des sondages. On nous bassine avec des lancinantes moralités propres à inciter les gens à se faire à l'idée, qu'il y aurait une seule façon de se faire à l'idée ou de participer à la vie de la cité. Comme si par fatalité on devait faire taire toute velléité de vitalité. Attends des rapports sans pure qualité. Et ouais, les rêves sont ma réalité, alors je rêve que les isoloirs aillent rejoindre des poubelles de l'histoire. Et quand des oubliettes, on y jette les deux modèles type Roméo et Juliette. Mais avec stupeur, je vois que rien n'a changé quand je me réveille en sueur. Et avec lucidité, je me rends compte que je viens de gagner l'élection des dépités, élus pour la vie. Après avoir déclaré ma flamme à la liberté, je me représente moi-même, pas besoin d'un spécialiste ou d'une moitié. Et en cas de référendum, la seule chance que j'aille voter oui, c'est quand on me demandera si j'aimerais avoir les pleins pouvoirs sur ma vie. Pas envie de choisir un élu pour son cœur ou pour la nation. Pas envie de dépendance, d'appartenance à une seule personne, une institution. Pas envie de m'étaler des heures pour vous faire part de mes convictions. J'ai toujours eu du mal à conclure, notamment les déclarations.
Bonsoir, vous êtes toujours sur Calibre, sur Radio Kaléidoscope 97 FM. En fait, on va continuer notre émission, et à savoir, on va vous lire le mail de Roxane Onim. Vous allez bien vite découvrir le sujet. Voilà.
Bonjour. Je voulais vous solliciter concernant la pratique de la masturbation. J'ai 22 ans et j'ai un clitoris et un vagin, mais je n'y touche jamais, sauf quand je me lave, évidemment. Mais surtout dans une période où je suis obligée de m'en préoccuper, quand j'ai mes règles, mais cela n'a rien de plaisant à ce moment-là. Cette période des règles conditionne aussi pas mal la façon dont je perçois mon sexe. C'est quelque chose de sale. Je n'ai jamais ressenti le besoin de me masturber et cette partie de mon corps ne m'attire pas vraiment. En plus de ça, c'est la forêt amazonienne. Même si parfois je prends des ciseaux et que je taille dans la masse, c'est loin d'être favorable à une perception positive de la chose. J'ai essayé quelquefois de découvrir comment c'était fait à l'intérieur et à l'extérieur. Mais mon clitoris est insensible à mes doigts et mes doigts n'aiment pas mon clitoris. On ne peut pas dire qu'ils s'entendent, non. Enfin, vous savez, c'est comme les chatouilles, quand on se les fait à soi, cela ne marche pas. Alors non, d'une pipe en bois, comment faites-vous? Comment l'envie vous vient de vous caresser? Faut-il qu'il y ait une excitation sexuelle avant même de commencer ou vient-elle après? L'excitation sexuelle. Je ne peux pas dire que j'en ai beaucoup. J'ai besoin de nombreuses sollicitations avant d'avoir réellement envie d'une relation sexuelle. Heureusement que les doigts de mon copain s'entendent bien avec mon clitoris, eux. Alors faut-il que je force mes doigts et mon clitoris à s'entendre? Comment cela s'est-il passé pour vous? Vos doigts et votre clitoris se sont tout de suite entendus ou a-t-il fallu les forcer? Y a-t-il de nombreuses filles comme moi qui ne découvrent pas la masturbation avant les rapports sexuels à plusieurs? Avec mon copain, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, on avait suggéré que je tente de me masturber lorsque nous faisions l'amour. Oui, parfois ça nous arrive, 2 à 3 fois dans le mois, mais je crois que cela ne pose problème à aucun d'entre nous. C'est le rythme qu'on a pris après une vie commune de bientôt 1 an. Mais même là, je n'ai pas envie et c'est tellement plus facile que ce soit lui qui me masturbe que finalement nous n'avons jamais pris ce temps-là, ce temps difficile où mon clitoris doit subir mes doigts maladroits et que mes doigts sont contraints à caresser cette zone insensible à leur caresse. Impossible de fantasmer sur quoi que ce soit. Mais le fond du problème, c'est d'avoir envie de se masturber. Oui, je rêve de cette indépendance sexuelle et de cette maîtrise de mon corps, mais il y a comme un blocage. Je ne me désire pas ou je n'ai pas assez de désir sexuel en général, je ne sais pas. Peut-être aussi faut-il que je remplace mes doigts par des objets. Le seul objet qui me satisfait pour l'instant, c'est le sexe de mon copain. Je dis bien objet car à ce moment-là, il me prête son corps comme quand je lui prête le mien parfois. Aussi, je relie ce rejet de mon propre corps à un manque de confiance en moi, relativement important. Il faut savoir que j'ai du mal à accepter un cuni de la part de mon copain aussi. Et bien évidemment, il faut que je me lave avant. Bah oui, c'est ça le sexe, cette idée ne veut pas partir. Mais un sexe qui sent bon, c'est plus agréable, non? Alors que lui s'en fiche, dit-il. Autre précision, j'ai quand même accès aux orgasmes lorsque je suis sur mon copain, enfin sur son sexe, ou lorsqu'il me sodomise et qu'il me caresse le sexe.
Eh ben voilà, hein, c'était plein de questions. C'est assez intéressant hein, comme témoignage.
Plein de questions et à la fois on sent qu'elle a quand même réfléchi. Elle apporte déjà plein de réponses
oui.
En fait hein, dans son
mail. Ouais. Mais en tout cas, moi je crois que ce que j'ai envie de lui dire en premier lieu, c'est que son envie là contradictoire de se masturber, mais en même temps elle en a pas envie ou elle en a pas besoin. Enfin, en tout cas, déjà première chose, c'est pas obligatoire. Enfin, faut se forcer à rien et puis il faut pas se forcer non plus au cunnilingus comme elle en parle à la fin de son mail. Enfin, il y a dans la sexualité, il faut pas se forcer à rien du tout. Et puis tu poses la question aussi de savoir si t'es seule à découvrir si tard la masturbation, en tout cas, non, t'es pas seule. Il y a plein de femmes qui l'ont jamais découvert non plus, ou qui le pratiquent très très rarement, il y a certaines filles qui disent l'avoir découvert la masturbation dès leur plus jeune âge et tout ça, mais en fait ça dépend vraiment de chacune d'entre nous quoi, de son rapport à son corps, de son rapport aussi à la masturbation parce que enfin je pense que dans certaines familles il y a un espèce de tabou aussi qui est là-dessus. Moi je me souviens quand une copine m'a parlé pour la première fois de masturbation alors que je me masturbais déjà depuis quelques années, mais moi j'ai halluciné de ouh là là, mais de quoi elle parle. Enfin je me suis aperçue en fait de ce truc là que c'était assez tabou et que du coup ouais, des fois on prend connaissance de cette activité sexuelle potentielle assez tardivement.
Ouais. En tout cas, pour un témoignage personnel, puisqu'elle demande aussi nous comment ça se passe, moi c'est clair que j'ai d'abord découvert la sexualité via des rapports à plusieurs et que c'est pas moi du tout qui gérais mon corps et mon plaisir et la masturbation elle est venue au fur et à mesure. Mais alors c'est vraiment pas la première chose que j'ai pratiquée, c'est sûr quoi. Et puis en plus je dirais que je suis toujours dans cette découverte de comment faire. Pareil, moi je n'utilise pas mes doigts direct sur mon clitoris, ça marche jamais, c'est clair que tes expressions me parlent beaucoup, hein, genre les, ils s'entendent pas, mes doigts sont maladroits, mon copain fait ça mieux que moi, voilà. Et puis il y a une autre chose qui me parle beaucoup dans ton mail, c'est cette vision du sexe, de nos sexes, cette vision un peu sale, des fluides, des règles,
c'est des, poils.
C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a ancré beaucoup, quoi. Hein. Moi perso, je me suis battue et je continue de me battre pour évincer cette vision-là et puis trouver au fur et à mesure du temps mon sexe de plus en plus joli, désirable, mais ça prend du temps, quoi. Ça prend du temps. J'ai eu besoin d'en discuter avec des copines super longtemps, de me sentir en confiance avec des partenaires sexuels, mais aussi avec des copines, notamment lors de moments de d'auto-observation. En fait, tu en parles que tu as déjà regardé comment c'était dedans, à l'extérieur, mais c'est vrai que voir comment on est fait de soi et puis voir comment sont faites ses copines aussi, ben je trouve qu'il y a un côté hyper rassurant, qu'on est toutes différentes, que il y a des nanas qui vont triper sur cette vision du sexe avec ses fluides et quelque part moi je m'en suis mis à triper par procuration en me disant ouais, elle trouve ça génial, bon ben moi je trouve ça un peu dégueu et ben à force de côtoyer, discuter avec ces nanas qui trouvaient ça génial et beau, et ben ma vision elle a évolué aussi dans ce sens là quoi.
Ouais. Et puis après, du coup, tu parles aussi de qu'est-ce que tu pourrais faire pour que ça fonctionne, puisque t'as quand même envie que ça fonctionne. Et donc, tu parles de tes doigts et ça a pas l'air de fonctionner. Et puis, ben, moi, j'ai envie de te dire qu'il y a plein d'autres trucs qui peuvent être utiles en ces moments-là. Alors, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais te dire? Déjà, il y a tout type d'objets que tu peux avoir autour de toi, hein, que tu peux frotter contre ton sexe. Je sais plus, là, je lisais un livre dont je te parlerai dans tout à l'heure, où elle parlait de son le rasoir électrique, là. Elle utilisait ça, mais ça peut être un pommeau de douche, ça peut être directement l'eau, ça peut être un coussin, un drap.
Il y a ce truc de contact direct et contact indirect qui est important. Moi, ça marche pas, en fait, quand c'est du contact direct, que ce soit par des vibros ou par quoi que ce soit. En fait, c'est un frottement, mais j'ai besoin d'avoir quelque chose entre mon sexe et cette chose qui va vibrer ou frotter, que ce soit un coussin ou machin, donc soit habillé, soit juste en sous-vêtements. Voilà, mais c'est vrai qu'on est très différente là-dessus et qu'il faut tester des choses pour voir ce qui nous fait du bien, quoi.
Et qu'en tout cas, la masturbation, c'est pas non plus uniquement la stimulation du clitoris avec ses doigts. Enfin, c'est aussi tout un ensemble, un contexte dans lequel on se met. C'est caresser son corps, ses seins, ses cuisses, ses cheveux. Enfin, c'est
son oreille.
Caresser son oreille, sucer son pouce, j'en sais rien. Enfin, ce qu'on a envie, quoi.
J'essaie de réfléchir à d'autres petites techniques. Non, mais c'est vrai que moi j'ai découvert, encore un petit moment perso, j'ai découvert très très récemment les vibromasseurs, mais externes, hein, vous savez, pas ceux qu'on rentre dans le vagin, hein, là, mais en l'occurrence un petit canard qui vibre, hein, et c'est, en fait c'est assez pas mal, hein, c'est vraiment à essayer, si vous avez des copines qui en ont, peut-être vous pouvez vous les passer pour voir ce que ça fait, il y a différentes, alors le mien est cassé, on fait signe en technique qu'il y a des intéressés, mais faut que j'en retrouve un, c'est pas moi qui l'ai cassé,
c'est moi,
oui. Bon, bref. Et bon, je sais pas pourquoi je dis ça. Bon, on peut passer peut-être à la fin de ce qu'on avait envie de dire sur ce mail-là.
Ouais, ben moi j'avais envie de quand même qu'on se pose la question, parce que bon, on donne plein de détails techniques, tatati tatata. C'est pas obligatoire, mais quand même finalement, ben on en parle quoi et ben pourquoi on ferait ça et pourquoi c'est intéressant de se masturber quoi enfin et moi pour répondre à cette question là que je pose eh ben j'ai envie de parler d'un livre qui s'appelle Le nouveau rapport HITE. Alors, pour expliquer le contexte de ce bouquin, en fait, c'est une américaine qui s'appelle Cher It. Je pense que je le dis vraiment très mal. Bref, qui, dans les années 70, était en fac d'histoire, je sais pas quoi, et qui, en fréquentant des groupes féministes, s'est aperçue de la méconnaissance qu'on pouvait avoir de la sexualité féminine et qui s'est dit, bah, en fait, moi, je vais aller recueillir des témoignages de femmes. Et comme ça, on en apprendra plus sur comment ça fonctionne la sexualité féminine. Et elle a fait ça dans les années 76, donc ça c'est le rapport HIT, en 76 il me semble. Et puis elle a repris ce travail-là il y a quelques années, et du coup il y a un nouveau rapport qui vient de sortir. Et voilà, et c'est hyper intéressant, c'est plein de témoignages de femmes, c'est intéressant à lire parce qu'en fait on s'aperçoit qu'on est toutes différentes, on vit vraiment des choses très très différentes. Et pour en revenir au terme de la masturbation, qui a une place assez conséquente dans le livre, il faut le rappeler, j'en étais où?
Pourquoi quelles sont les différentes motivations?
Oui, bon alors je vais oublier mes notes, je vais le dire comme ça avec tout mon cœur et tout ça. Par exemple, il y a des femmes qui se masturbent uniquement, en premier lieu pour avoir des orgasmes, parce qu'en fait dans leur rapport avec des partenaires, eh ben elles en ont pas. Et pour elles déjà c'est une solution pour avoir un orgasme et c'est déjà chouette quoi. Alors ça a pas l'air d'être ton cas parce que toi tu as des orgasmes avec ton copain donc voilà. Mais il y a des nanas qui se masturbent pour se découvrir leur corps, découvrir leur sexualité, ce qu'elles aiment et tout ça, des choses comme ça. Pourquoi d'autres femmes elles se masturbent pour avoir des orgasmes mais de façon autonome, aussi se sentir indépendante dans leur sexualité, ne pas avoir besoin de demander à quiconque pour se donner du plaisir.
Et puis il y en avait d'autres, mais je sais
pas. Oui, il y en a une autre qui est simplement se donner du plaisir. Ah et bah oui. ce qui est quand même une très très bonne raison. Hein.
Se faire du bien, quoi, comme on peut se faire du bien en prenant un bain chaud.
Voilà. Et alors pour ça, je vais pour illustrer ça, je vais lire deux extraits du nouveau rapport HIT. Oui, je sais, il est 21h03. Bon, et alors ça va prendre 2 secondes. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Parce qu'en fait, j'avais envie de lire ça parce que tu parles de ta confiance en toi et tout ça, et que tu lis ça un peu au fait que tu n'arrives pas à te masturber. Et du coup, moi, j'avais envie de te répondre ça. Voilà, je vais te lire. Me masturber, c'est jouer un solo sexuel. C'est affirmer que je suis pleinement responsable de moi-même. Je suis ici, maintenant. Je me plonge dans l'érotisme. Je suis bien. Je m'aime. Un deuxième. Ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir orgasmer par mes propres moyens. Autrement dit, je suis fière de moi. Oui, après l'orgasme, j'éprouve un énorme sentiment d'orgueil et j'éprouve envers moi une immense tendresse pour cette chose merveilleuse que je me suis donnée. Voilà.
C'est mignon. Bon, et puis moi, j'avais envie de dire aussi à Rox Anonyme, là, on est un peu pressé par le temps, on aurait pu encore parler beaucoup à propos de ce mail hein, qui aborde plein de choses, de pas hésiter à appeler sur une prochaine émission pour, suite à celle-là, voilà, si tu as d'autres questionnements, d'autres envies de témoigner, ou d'autres personnes qui ont envie de témoigner sur leurs envies ou non, ou leurs pratiques ou non de masturbation, n'hésitez pas. Hein. Sur les prochaines émissions. Bon, par contre, je crois que pour ce soir, il va falloir vraiment qu'on s'arrête.
Donc, voilà, on vous rappelle, c'était la 20e émission, nous sommes le 20 mai. Au micro, il y avait Myriam et Mélanie, à la technique Maud et Christelle. Quoi dire de plus? Vous pouvez nous écrire à calibre, CAS-libre au pluriel, @poivron comme le légume, .org.
Vous pouvez aussi écouter les émissions puisqu'elles sont téléchargeables sur notre site internet, donc k-libre.poivron.org. Et puis, mais elles ne sont pas juste téléchargeables, vous pouvez aussi les écouter en direct sur internet si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas accès au 97 FM de la région grenobloise.
Tout à fait, tout à fait. Et puis, terminer par une petite annonce, mystère, réservez donc votre soirée du 18 juin puisque nous organisons un petit jeu à Antigone sur Grenoble, donc l'équipe Calibre et d'autres personnes autour de ces questions de sexualité, de corps et de relations affectives, où l'idée ça va être un petit peu de se mettre en jeu, en scène comme animatrice ou animateur calibre avec des personnes qui poseront des questions. Enfin voilà, on va bien s'amuser, on espère que vous pourrez venir. Donc c'est le vendredi 18 juin.
À Antigone, mais on vous en reparlera aux prochaines émissions, on vous donnera l'adresse et tout ça. Pour l'heure, il est temps de se quitter.
Eh bien, à une prochaine fois, la semaine prochaine, avec une autre équipe. Bonsoir.
Corps,
amour, sexualité.
Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.